Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Bienvenue dans cette libre antenne un peu tardive où chacun vient chercher des réponses au travers des témoignages et souvent on s'y retrouve soi-même au travers d'inconnus, alors même qu'avec nos proches on a parfois du mal à leur reconnaître des réactions différentes des nôtres dans certaines situations. Ah, fusion, quand tu nous tiens. Pourtant, ces différends qui semblent en apparence nous séparer, ce droit pour chacun d'utiliser son expérience comme il l'entend et de lui donner la signification qui lui paraît juste représente un riche potentiel d'échange et de croissance, de tolérance aussi. Tout être est comme une île au sens le plus réel du mot et il ne peut construire un pont pour communiquer avec d'autres êtres que s'il est prêt à être lui-même et à reconnaître aux autres cette même permission. Alors dans cette libre antenne, on construit des ponts, on fait l'expérience de s'accepter, d'accepter les sentiments, ressentis, croyances qui constituent le réel et le vital de chaque personne et de nous aider mutuellement à devenir des personnes distinctes des unes des autres et pourtant si semblables au fond. Plus nous sommes prêts à reconnaître ce qu'il y a de réel en nous et chez l'autre et moins nous avons le désir d'essayer à tout prix de le changer. Alors ici, au 3921, nous faisons l'apprentissage de l'écoute et du respect de la parole. Thomas et Florian sont là pour recevoir vos appels et c'est notre chère Fifi qui, avec sa grande bienveillance, réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot « nuit » ou en envoyant un mail à l'adresse libreantenne, tout attaché en minuscules, @europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters 3921. Nous sommes à votre écoute.
22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Alia.
Oui, bonsoir Sophie, vous m'entendez
Bienvenue.
Bien?
Oui, très bien. Merci, je vous remercie.
C'est parfait. Sophie, d'abord, je vais vous dire pourquoi je vous appelle en particulier. Parce que je vous écoute et je vous trouve quelqu'un d'empathique.
Merci.
C'est une qualité rare. C'est pour ça que, bien que je ne sois pas quelqu'un qui se confie facilement, donc je crois que c'est la première fois que je me confie vraiment à quelqu'un.
Ah bah écoutez, merci de cette confiance. Merci, Alia. Oui, ça me touche.
Alors, je vous appelle pour vous demander de votre éclairage par rapport à résilience.
Oui, oui.
Parce que pour vous résumer,
oui.
J'ai quitté mon pays d'origine il y a 33 ans de ça.
Oui.
J'étais une toute jeune fille, donc j'ai quitté avec les membres de ma famille pour venir en France suite à des événements politiques et autres.
Mm-hmm.
Et durant ces années, j'ai perdu une partie de ma famille.
Ouais. Un pays qui était en guerre, c'est ça? Vous étiez dans un pays en guerre? Oui.
Absolument.
On peut citer le pays d'où vous venez?
Oui,
oui,
bien sûr.
Oui.
Voilà, je viens de l'Afghanistan.
Oui.
Donc, on est venu en fuyant la guerre. Et durant ces années, donc, j'ai perdu une partie de ma famille.
Mm-hmm.
On est venu en France et aujourd'hui, on est deux frères et une sœur.
Oui.
J'ai la chance d'avoir deux frères et une sœur très aimants.
Mmh.
Voilà, j'ai cette chance-là. Mais ce que j'ai entendu, tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort.
Oui. Mmh.
Je suis d'accord avec ça. Sauf que pour moi, ça m'a rendue forte, mais ça a quelque part abîmé quelque chose.
Bah, bien sûr, Alia. Oui. Oui, oui, c'est intéressant que vous en parliez. J'avais fait une petite introduction récemment sur ce sujet. Et effectivement, la maxime est connue, hein, la maxime de Nietzsche. Et en même temps, C'est vrai qu'on n'est pas, ben non, on n'est pas pareil. Ça nous rend plus forts dans le sens peut-être une forme d'aptitude à faire avec des événements difficiles et traumatisants. Mais comme vous dites, il reste des parties fragiles, abîmées, il reste des cicatrices en fait. Hein, il reste des blessures. Alors, des blessures cicatrisées ou non d'ailleurs. Et peut-être c'est à ça que vous faites allusion quand vous parlez de résilience. Est-ce qu'on est toujours dans la blessure ou est-ce qu'il y a une cicatrice?
Je crois que j'ai pansé mes blessures avec ces années.
Oui.
Ce qui a abîmé définitivement, je trouve que ça a tué quelque chose de magique.
Parce qu'avant, je
voyais la vie comme quelque chose de magique. C'est comme une sorte de d'arc-en-ciel.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, je suis très fonctionnelle. À chaque fois, j'ai fait comme des équations mathématiques. Ça va.
D'accord.
Je crois que cette partie de magie que ça a abîmé définitivement. Et je ne trouve pas les clés pour retrouver un petit peu de cette magie.
Cette magie, oui. Oui, parce que ce qu'on comprend, Alia, c'est que quand vous dites qu'aujourd'hui vous êtes très fonctionnelle et comme vous dites, vous résolvez, vous avancez dans la vie en forme d'équation mathématique, c'est que c'est une façon de vous protéger. C'est le mécanisme de défense que vous avez trouvé pour ne pas être trop réceptive ou trop bousculée émotionnellement par votre sensibilité d'être humain, tout simplement, et qui a été trop touchée enfant. Mais du coup, n'ayant plus ce monde émotionnel plein de couleurs, c'est ça qui enlève la magie. C'est que certaines émotions se sont sans doute un peu bloquées, un peu arrêtées pour vous. Par défense, par protection. Parce qu'au départ, c'est toujours assez judicieux, nos mécanismes de défense ou de protection. On parle aussi de résistance en psychologie. Mais il s'agit aussi, et c'est peut-être ça que vous ressentez aujourd'hui, Alia, de dire peut-être que maintenant, mes mécanismes de défense, ils m'entravent. C'est-à-dire, je n'ai plus accès à cette magie de la vie et j'ai aussi envie de la retrouver. Enfin, c'est ce que je comprends dans votre témoignage.
Exactement. Vous avez résumé ce que j'ai du mal à verbaliser. C'est-à-dire que, Je fais tout pour que le quotidien soit fonctionnel, que tout aille bien, que j'ai pas de problème, que je cours pas de risques, que voilà, et ainsi de suite. Mais je ne suis plus dans le nuage, comme j'étais pas forcément dans le nuage, mais vous avez compris, je crois.
Tout touché par le vivant,
exactement.
Mais quand on est une jeune fille comme vous, et même enfant, vous avez connu des scènes de guerre, vous avez perdu des proches. Il y a effectivement, vous avez raison quand vous parlez d'abîmer, ça a abîmé sur le plan de vos croyances dans la vie. Vous êtes partie dans une vie d'abord pour vous protéger, pour vous défendre.
Oui.
Et puis vous avez fui ce pays en guerre, par protection également. Mais forcément que un enfant, puis un adolescent ou une jeune fille en construction, perd quand même dans ces moments-là une forme de légèreté ou de, j'aime bien votre mot, de magie de la vie. Et sans doute qu'aujourd'hui, arrivée à la cinquantaine, vous réalisez que elle est quand même là, la magie de la vie. Elle perdure. Vous la sentez plus, mais sans doute que vous pouvez la voir sans la sentir. Enfin, vous pouvez intellectuellement, en tout cas, l'apercevoir, peut-être.
Voilà, exactement. Je vois ce que vous dites.
Oui, oui.
Parce que, par exemple, je sors à Paris.
Oui.
Je me dis que c'est une ville extraordinaire. C'est une très belle ville, la plus belle du monde. Je vis dans une des plus belles villes du monde. Mais malgré tout ça, je ne retrouve plus la magie. Alors que... avant mes traumatismes, j'étais dans une ville à Kaboul, c'est une ville pourrie par rapport à Paris. Je ne sais pas, je voyais de l'arc-en-ciel, c'était dans mes rêves. J'essaye de retrouver un petit peu de ça et j'ai du mal.
Ah, et dans vos rêves, vous dites que vous pouvez... c'est ça, si j'ai bien compris. Dans vos rêves, même actuellement, si vous rêvez de Kaboul, vous arrivez à y voir des arc-en-ciel, c'est ça, vous me dites?
Non, non, non.
Non, pardon.
Je dis,
oui.
Je dis à l'époque où
à l'époque,
j'avais pas
d'accord.
des traumatismes,
d'accord.
par exemple, de perdre de,
oui.
des membres de ma famille,
oui.
dans une ville incroyablement moche et
oui,
pourrie.
Oui, mais c'est la capacité.
Je voyais la vie
c'est ça. Oui.
Je voyais la vie comme de l'arc-en-ciel, je voyais plein de couleurs.
C'est la capacité et d'émerveillement.
Là, voilà.
Oui, oui, vous avez perdu. Exactement. Perdu l'émerveillement. Ouais, alors que là, vous dites, j'aimerais bien m'émerveiller.
plus magnifique. J'essaie de retrouver un petit peu de la magie et j'ai du mal.
Ouais, ouais, parce que sans doute que, et vous avez raison d'employer le mot de résilience, y a peut-être pour vous cette résilience à mener, parce que souvent en psychologie, la résilience s'oppose à ce qu'on appelle le coping. En anglais, c'est to cope, c'est se débrouiller, s'en sortir. Et en fait, la résilience, ça permet justement de dépasser cet état où, un peu en mode survie, on se débrouille et on s'en sort. Peut-être que ça fait des années que vous vous débrouillez pour vous en sortir.
C'est-à-dire mais j'arrive pas à sortir de ça.
Bah oui, c'est bien ça. Hein. Donc la résilience, elle est pas là. Elle n'est pas là, non pas que, évidemment, que ce soit un défaut ou un échec pour vous, mais ça veut dire qu'effectivement, vous avez peut-être besoin d'être aidé pour rentrer en résilience par rapport à ce passé. Peut-être que vous êtes prête à ça, que maintenant que vous avez su survivre, vous avez su vous débrouiller avec la vie, comme vous dites, fonctionner, peut-être que maintenant, vous avez, vous sentez le besoin de passer à une autre étape. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous entendez par là qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un?
Oui. Oui, pour reparler de tout ça. Vous avez déjà été aidée ou pas dans ces moments-là, depuis que vous êtes arrivée en France ou jamais?
Si, parce que j'ai eu un accident grave de voiture,
oui.
Enfin, de circulation, et suite à ça, de fil en aiguille, j'ai vu une personne qui était très bien empathique, mais une belle personne, donc qui m'a écoutée et m'a demandé de verbaliser, parce que en verbalisant mes pertes, ça allait perdre sa gravité et que j'allais le digérer mieux, que j'allais le surmonter.
Bien sûr, ouais.
Voilà, je suis allée la voir, j'ai pleuré, j'ai verbalisé. Et c'est pour ça que j'attends maintenant de retrouver un petit peu de la magie.
Oui, mais dans la position d'attente, Alia, ça ne va pas venir comme ça, en fait. C'est pas dans l'attente, ça va pas venir à vous. C'est vous qui allez effectuer un travail qui va permettre à la magie de s'imposer dans votre vie. Elle va venir, je comprends quand vous parlez d'attente, elle va venir, mais elle va venir que si vous allez la chercher, autrement dit. Elle va venir à vous.
Mais j'ai pas les clés.
Bien sûr, je comprends. Mais oui, je comprends. C'est pour ça que je vous dis que oui, ce serait bien de vous faire aider, accompagner. Justement sur tout ce qui est les traumatismes de guerre, parce que là vous avez besoin effectivement d'effectuer un véritable trajet de résilience pour re-rentrer en contact avec cette magie de la vie qui vous manque et dont vous avez envie et besoin. D'ailleurs, il y a un auditeur qui demande comment vous vous sentez portée ici en France et au-delà de la famille, quel entourage vous avez pour vous sentir capable de rêver de nouveau. Ah, j'ai l'impression qu'on vous a perdu, Alia, parce que je ne vous entends plus. Ah zut, ça a dû couper. Bon, ça, malheureusement, c'est quelquefois ce qui nous arrive dans le direct. On va passer un disque, le temps de tenter de retrouver Alia. J'espère qu'on va la retrouver, à moins que ce soit un problème de batterie de portable. Ce sont des choses qui arrivent. À tout de suite. Bon, formidable Alia, on vous a retrouvé. Je crois que c'était un problème de réseau, en fait, hein, c'est ça?
Oui.
Oui, bon, tant mieux. Il y a un auditeur qui demande comment vous vous sentez portée ici en France et au-delà de la famille, quel entourage vous avez pour vous sentir capable de rêver de nouveau?
C'est pour ça que je tente de rêver de nouveau, parce que j'adore la ville où j'habite. J'aime mon travail.
Oui.
Et puis, franchement, j'ai adopté tout de suite ma vie ici. J'aime beaucoup de choses ici. Mais c'est pour ça que j'aimerais retrouver un petit peu de la magie.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, sans doute que toute cette vie vous a aidé à, bah, à vous protéger, à vous construire. Bien sûr que vous êtes construit hein, pendant ces 30
oui.
ans, mais il doit sans doute rester accroché, comme dans tous les traumas subis dans l'enfance et l'adolescence, des images très fortes, peut-être même ancrées un peu dans la boîte noire hein, de l'inconscient, mais qui pèsent
voilà.
et qui assombrissent un peu votre ciel, quoi, hein, où vous ne voyez pas les étoiles. Il y a du ciel, mais il n'est pas très lumineux. Donc, ce qui serait...
Ouais.
Ce qui serait bien, Alia, à ce moment-là, parce que vous n'avez pas besoin d'un long travail à exhumer tout le passé.
Oui.
Il me semble que comme c'est des scènes de guerre et des scènes traumatiques, vous pourriez travailler en EMDR. Alors, j'en parle voilà, de temps en temps ici à ce micro, parce que c'est aujourd'hui cette pratique-là qu'on recommande dans tous les traumas, notamment les traumas de guerre. On envoie des psys formés à l'EMDR, par exemple au Kosovo, sur les scènes de guerre, au moment des attentats, parce qu'on sait que
oui.
c'est une approche qui travaille sur le cerveau et justement sur cette capacité du cortex et du cerveau limbique, du cerveau émotionnel à se reconnecter, hein, donc à retrouver oui. cette magie dont vous parlez. Et il me semble que ça pourrait être très très aidant pour vous, Alia, de faire appel à un thérapeute formé à l'EMDR, hein, EMDR.
Oui, j'ai la
vous en avez entendu parler. Oui.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Mais si c'est par exemple quelqu'un ouais. des proches, ce n'est pas gênant.
C'est-à-dire si c'est un proche qui vous fait la séance, c'est ça?
Oui.
Parce que
oui.
vous avez autour de vous un psy formé le MDR.
Oui.
D'accord. Parlez-en avec, ça dépend du degré de proximité, mais voilà, c'est jamais recommandé parce que forcément, bon, avec le MDR, les inconscients ne sont pas vraiment reliés parce que le psy met en place un protocole, mais si c'est un proche qui a aussi vécu des mêmes événements que vous, ça risque de rentrer quand même un petit peu en conflit d'image.
Oui. Parce que c'est mon frère, il est psychiatre.
Ah, très bien.
Et il est formé à ça, justement. Et
ah.
Par contre, on a les mêmes traumatismes.
Et vous en avez parlé ensemble de ça
Oui. Je n'ai pas parlé encore, mais je sais qu'il pratique ça à ses patients.
D'accord.
Mais j'ai eu un moment avec sa sœur qui a le même traumatisme que lui. Et je ne sais pas si c'est judicieux.
Bah, non, si c'est votre frère, c'est pas judicieux du tout, mais est-ce que lui, par contre, enfin, j'imagine qu'à partir du moment où il s'est formé, il a lui-même eu des séances de MDR. Et qu'est-ce qu'il... Hein, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il vous en a dit, lui, que ça l'a aidé? Comment il est par rapport à vous?
Il a fait ça, mais il m'a expliqué qu'en fait, c'est par rapport à un événement traumatique.
D'accord.
C'est comme on ramenait cet événement, un événement traumatique, et on le sort de
oui.
l'expérience. Le cerveau.
Oui.
Puis voilà, parce que tout ce que je ressens, par exemple, par rapport à un événement particulièrement traumatisant, ça va disparaître. Mais maintenant, si je me confie à lui, je ne sais pas si ça ne va pas raviver.
Non, non.
Lui.
Mais ce n'est pas une bonne idée. C'est surtout que non, vous êtes frère et sœur, vous êtes trop proches
ouais.
et vous avez des histoires trop semblables. Par contre, lui, il est à même de vous conseiller un professionnel, forcément.
Oui, tout à fait.
Mais lui, donc, lui, il dit que ça l'a aidé par rapport à... Enfin, si vous parlez de vos souvenirs ou de la façon dont vous voyez la vie, bah, cette magie dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous pensez ou vous en avez parlé avec votre frère, est-ce qu'il y a accès? Comment lui vit la vie d'aujourd'hui?
Lui, il est non seulement résilient, mais il est devenu extrêmement fort.
Oui. Oui.
Psychologiquement, c'est-à-dire qu'il se plaint jamais, pour lui tout est positif, c'est merveilux, et voilà, mais je ne sais pas, maintenant au fond de son...
Bien sûr, bien sûr. Oui, en tout cas, il semble aller bien, c'est ça que vous voulez dire.
Oui,
d'accord.
Voilà.
Bah, c'est l'essentiel, oui, bien sûr. En tout cas, vous connaissez bien. Et vous lui avez parlé de ce dont vous me parlez ce soir ou pas? Il y a une pudeur peut-être entre vous? Il y a peut-être une forme de pudeur parfois, ouais.
Oui. Oui, parce qu'on a même du mal à évoquer la mort de nos proches. que ça nous, je sais pas, c'est comme une sorte de quelque chose d'intime que,
oui,
qu'on,
c'est vrai.
Terrible qu'on pouvait pas, parfois, rarement, on fait allusion, mais ça nous blesse tellement qu'on le referme aussitôt.
Oui, comme vous dites, c'est intime, c'est que quelquefois aussi, on le vit même différemment, même si c'est un même événement, on n'a pas été impacté pareil. Donc, parfois, c'est même difficile, en fait, d'échanger avec des très proches sur un c'est événement trop... de traumatisme de famille. Oui, absolument.
C'est très, très difficile. Surtout entre nous, frères et sœurs. Mais je peux confier à vous des choses que je ne pourrais pas lui dire.
Mais oui, c'est pour ça que ce n'est pas du tout une bonne idée de travailler ça avec lui. Mais en revanche, lui peut vous indiquer un professionnel dans ce domaine.
Oui,
Parce que vous habitez dans la même ville, tous les deux.
Oui, bien sûr, on est à Paris.
Oui.
Oui, une bonne idée. Je vais lui en parler à un de ses collègues. Peut-être qu'il va me conseiller un de ses collègues.
Oui, parce que vous n'avez pas besoin de... on n'y passe pas des années dans le MDR.
Une thérapie brève.
Oui, ça fait partie des thérapies brèves. Pourquoi ? Parce qu'on travaille souvenir après souvenir. Alors évidemment, si on en a énormément, tout dépend. Je ne veux pas non plus généraliser. Mais vous, je sens que votre vie est solide, elle est structurée. Vous avez besoin surtout de d'intégrer, d'alchimiser des images ou des événements traumatiques pour les remettre aux bons endroits, pour pas qu'ils vous obsèdent ou qu'ils encombrent votre vie d'aujourd'hui, votre quotidien. Parce que c'est un peu ça le problème du trauma, c'est qu'il est toujours actif. Il est là et toujours actif dans des événements de la vie. Ah, y a un auditeur qui dit « Vous êtes vivante, attrapez la belle vie que vous allez construire autant que faire se peut respirer. Et cela est un beau miracle. Bienvenue ici et courage.
» Ah, c'est gentil. Ça me touche. C'est gentil. J'ai la chance d'être en vie, de vivre dans une belle ville, d'avoir la liberté.
D'avoir un métier, d'avoir construit une vie. Vous avez des enfants, Alia, aussi ?
Non, pas des enfants, mais j'ai une neveu-nièce.
Ouais.
Surtout des frères et sœurs très aimants, et que j'ai des collègues sympas. Par ailleurs, tout va bien.
Bien sûr. Mais c'est toujours, vous savez, le trauma, alors plus ou moins gros, j'ai envie de dire, le grain de sable ou carrément le gros caillou dans la chaussure qui fait mal quand on marche et qui gêne.
C'est ça, vous l'avez dit. C'est le grain de sable qui me trotte toujours dans
Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu la petite tache noire sur le ciel bleu, quoi. Le ciel a beau être bleu, on se dit, bon, j'ai une jolie vie, mais il y a quand même toujours un poids comme ça. Ouais.
C'est ça, exactement.
Ouais. Il y a un auditeur qui demande qu'il y a il propose, c'est une suggestion pour vous, de voir un film en médiation pour en parler avec votre frère, Les Cerfs-Volants de Kaboul, vous l'avez peut-être vu. Et puis, quid d'un retour possible au pays est-ce qu'il y aurait quelque chose à retrouver Qu'est-ce que pensez
J'ai tel traumatisme noir de ce pays que j'ai coupé de tous les ponts.
Ouais.
Et au début, quand je suis arrivée, je refusais même de parler en personne. Quand on parlait en personne, je disais, moi, je ne connais pas cette langue.
Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, vous la pratiquez, cette langue, ou avec vos proches ou votre frère, ou plus ? Vous ne la parlez plus ?
Non. Quand il y a un Iranien qui me parle en personne, il est pas, je ne sais pas, un Afghan, je lui parle en personne.
Ouais, d'accord.
Mais je crois que j'ai tellement noirci cette partie dernières années que j'ai complètement
Donc c'est
m'a fait du bien de couper tout
Mais je vais vous dire pourquoi aussi c'est important, Alia, de mener ce travail, c'est de vous réconcilier avec votre enfance. Bien qu'elle n'ait pas été celle que vous auriez aimé avoir, mais c'est ça la magie dont vous parlez, c'est vraiment de vous réconcilier avec l'enfance que vous avez eue, avec la petite fille qui a vécu tout ça. C'est une vraie réconciliation à mener, pour plus être vous-même en guerre contre ce pays ou cette langue. Non pas que vous deviez la parler ou votre genre, mais au moins qu'il n'y ait plus ce sentiment de guerre en vous.
Oui, c'est comme je suis toujours en guerre contre ça.
Ouais. Bah oui, je comprends, bien sûr, mais il y a de quoi. Mais en fait, il y a aussi la petite fille que vous avez été, et elle a besoin de paix. Et elle a besoin que vous puissiez, vous, maintenant que vous avez construit votre vie d'adulte, de lui procurer cette paix-là. C'est pour elle, à la limite aussi, que vous pouvez le faire. Et je pense que c'est ça la magie dont vous parlez, parce que c'est elle qui va vous la rendre, qui va vous la procurer quand elle aura moins peur et puis elle sera un peu sortie de sa cachette, en tout cas de là où elle est allée se cacher, parce qu'elle a sans doute toujours encore très peur.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Il y a un auditeur qui ajoute, elle apporte une douce lumière à rallumer peut-être à la lampe de ses origines dissoutes. C'est très beau.
Ouais, c'est poétique.
Ouais, très. Il demande de rêve-t-on dans sa langue d'origine. Est-ce que vous rêvez dans votre langue d'origine, demande un auditeur.
Non. Non, je l'ai érigé.
Pardon.
Je crois que non. je l'ai trop radié dès le début.
Ouais. Mais en protection, hein. Dites-vous que il faut toujours bien penser que ce qu'on fait n'est pas contre, ou c'était votre mécanisme de défense, c'était la meilleure protection que vous ayez trouvée à l'époque. Sauf que maintenant, exactement, que vous avez vous avez bien avancé, il est un peu trop lourd. Imaginez que vous ayez mis une grosse armure et puis que maintenant l'armure soit un peu trop rigide, un peu trop encombrante.
Que je peux enlever.
Voilà. Vous pouvez commencer à l'enlever parce qu'en dessous, vous êtes assez construite. Hein. Au début, vous étiez une jeune fille, il a fallu construire une grosse armure. Mais maintenant, c'est assez construit pour que petit à petit, vous puissiez l'enlever. Et c'est ça que vous allez faire. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en dessous, c'est bien construit.
Exactement. Il m'a fallu quand même 33 ans pour
bien
ça.
Bien sûr. Bah ouais, vous rendez compte avec une enfance... Et c'est magnifique, hein, votre parcours, le vôtre, celui de votre frère, j'imagine votre sœur aussi. Enfin... Bravo, quoi, on a envie de vous dire vraiment, c'est magnifique d'avoir pu aussi avancer comme ça dans la vie.
Bah, je crois qu'on revient à nouveau sur tout ce qui ne tue pas nous renforce.
Oui.
On revient.
Ça veut dire qu'une fois qu'effectivement on ne s'est pas laissé aller dans le désespoir, à ce moment-là, on a trouvé là la force de remonter. C'est aussi ça que veut dire cette phrase. Et c'est ce que vous avez fait. Ouais. Merci infiniment, Alia, hein, pour. Merci de votre confiance et merci pour votre très beau et très émouvant témoignage. Puis je vous souhaite vraiment un beau chemin de résilience.
Merci beaucoup à vous, Sophie.
Ouais.
Bonne soirée.
Europe 1, 22h30, 1h. La libre antenne. Sophie Peters.
Écoute Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct. Et avec vous, une libre antenne dans laquelle on fait l'apprentissage de l'écoute, du respect de la parole. Thomas et Florian sont là pour recevoir vos appels. Et puis vous pouvez bien entendu réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS. 739 précédé du mot nuit, écrit en majuscule, ou par mail à l'adresse libreantenne, tout attaché en minuscule, @europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters, 39. 21, nous sommes à votre écoute.
22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Colette.
Oui, bonsoir Sophie, merci Bienvenue. De m'accueillir.
Bienvenue. Alors Colette, vous êtes un peu perdue, vous dites, dans votre relation avec votre maman qui a 87 ans.
Oui,
oui.
C'est ça. Parce qu'elle souffre depuis, assez récemment, de la maladie de Parkinson. Qui l'a ralenti beaucoup sur le plan physique, puisque c'est surtout la motricité qui est atteinte, mais un tout petit peu les facultés mentales aussi, c'est-à-dire qu'elle a toujours son esprit aussi clair qu'avant, mais elle est un petit peu ralentie, c'est-à-dire que quand on lui pose une question, elle a besoin d'un temps pour réfléchir. Alors que avant, elle répondait du tac au tac. Maintenant, il y a toujours un temps de réflexion avant de répondre. Donc, elle est un petit peu ralentie aussi sur ce plan-là. Elle aussi a des petits problèmes de mémoire. Enfin, elle ne se rappelle pas toujours tout. Aussi bien que moi, je ne sais pas très bien à quel moment j'essaye de l'aider au maximum. Je suis sa seule fille. Elle vit dans un EHPAD, donc elle n'est pas toute seule à longueur de journée, mais je lui rends quand même visite assez souvent et je la soutiens, je l'aide au maximum. Mais je ne sais pas à quel moment je dois prendre les décisions à sa place pour la décharger et à quel moment la laisser prendre ses décisions elle-même, c'est-à-dire avoir la patience de lui laisser le temps de réagir à son rythme et de la laisser prendre ses décisions toute seule, ce qu'elle aime bien faire parce qu'elle elle se rend compte quand même elle aime bien être autonome, elle aime bien avoir quand même un droit de regard sur sa propre vie. Et je suis un petit peu perdue là parce que quand je vois qu'elle ne réagit pas assez vite, j'ai envie de faire à sa place.
Oui.
Et bon, je pense que c'est pas bien. Et d'autant qu'elle n'aime pas ça, elle se froisse quand elle se rend compte.
Ça parle du coup un peu de vous, Colette, c'est-à-dire peut-être de votre empressement à la soulager, hein, naturel, bien sûr, hein, quand il s'agit d'une maman. Mais peut-être qu'il y a de ça à ralentir chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que c'est sûrement ça, parce qu'en plus, non seulement je suis sa seule fille, mais elle est également aussi ma seule famille. C'est-à-dire que le jour où elle partira, je vais me retrouver complètement toute seule. Et je crois que je panique un petit peu à l'idée de la voir se détériorer. Je ne peux pas m'empêcher de penser au moment où le jour viendra où malheureusement elle ne sera plus là. Et j'essaye par tous les moyens de la prolonger au maximum en essayant de prendre ce que je crois, moi, être les bonnes décisions
pour elle.
À sa place. Enfin, et peut-être que je ne lui fais pas assez confiance.
Oui, puis du coup, vous parentalisez un peu la relation, alors qu'elle a peut-être besoin, elle, de garder ce rôle de parent parce que c'est la garantie de son autonomie, de sa place par rapport à vous et qu'elle n'a pas envie d'être infantilisée par vous de fait.
Oui, c'est peut-être ce que je fais, oui.
Mais sans doute par protection, hein. Évidemment par désir de protection. Sachant que vous-même, vous avez des enfants, Colette ?
Non, je n'ai
d'accord.
Pas, je
n'ai pas d'accord. D'accord. Oui, donc peut-être que d'autant plus cette maman est à protéger, c'est-à-dire que voilà, tout l'aspect maternel ressort chez vous dans la relation avec elle. Il y a une relation très forte, forcément, entre vous.
Oui.
Et vous avez envie, c'est votre désir le plus cher, mais quelquefois, en voulant trop bien faire, en fait. C'est toujours cette histoire de curseur, on va un petit peu trop loin. Donc, c'est à vous de mener ce travail d'une forme de détachement aussi par rapport à elle.
Oui, c'est ça.
Qui est évidemment, j'entends bien, douloureux parce que vous savez bien vers quoi vous allez et qui est inéluctable. Et peut-être que dans cet empressement, vous avez employé le mot de panique, il y a effectivement peut-être beaucoup aussi d'anxiété, d'angoisse.
Oui, absolument.
Oui,
je sais que, par exemple, je sais que même pour les personnes d'un certain âge, l'inactivité complète n'est pas recommandée. Je sais qu'il faut aussi, pour sa santé, faire attention à son alimentation. Elle ne fait pas très attention à ce qu'elle mange. Elle a tendance, surtout avec sa maladie, à rester assise toute la journée et à ne pas bouger. Et ça a tendance, étant donné que je sais que c'est mauvais pour elle, à me mettre en colère et à tenter de la brusquer un petit peu, d'insister peut-être parfois lourdement pour lui dire « Mais écoute, maman, il faut que tu bouges un petit peu plus, essaye de marcher, essaye de pas manger n'importe quoi. » Enfin bon, et c'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être que je l'infantilise d'une certaine façon.
Vous n'avez pas tort dans le fond, Colette, c'est pas tant une histoire de fond qu'une histoire de forme. Bien sûr, c'est vrai qu'elle doit bouger, bien s'alimenter. Ben, vous avez raison. C'est que forcément, elle doit avoir, alors peut-être pas trop, en tout cas suivre son rythme, mais ne rien faire non plus. Enfin, pour elle, c'est peut-être pas très bon non plus. Mais c'est peut-être une façon de présenter les choses. C'est peut-être plus le mode que le fond. Des fois, on pense qu'on met les deux dans le même bateau, puis on, j'allais dire, vous savez l'expression, jette le bébé avec l'eau du bain. Mais en fait, non. C'est-à-dire que dans le fond, je pense que voilà, votre vigilance, elle me paraît juste. Mais c'est la façon dont vous avez exprimé, peut-être de trouver quelque chose de plus ludique ou qui correspond plus à sa nature à elle ou au fait qu'elle soit une adulte. C'est-à-dire de proposer quelque chose, je ne sais pas, une sortie ou au lieu de la pousser à faire, de dire et pourquoi, tiens, tu... Je sais pas, tu irais pas faire telle course ou est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble, si vous pouvez le faire ensemble, voilà, de faire plutôt des propositions qui visent le même but.
Oui, je comprends.
Et dans l'alimentation, bon, est-ce qu'elle fait ses courses, est-ce que c'est vous qui lui faites, comment ça se passe?
Bien non, parce que comme elle est dans une maison de retraite, ses repas lui sont déjà préparés.
Ouais.
Mais quand il y a des petits goûters où il n'y a que des gâteaux pleins de crème, par exemple, j'ai tendance à lui dire, écoute, surtout que moi je fais attention à ma ligne.
Ouais.
Donc, et aussi pour ma santé, bien entendu.
Ouais.
Donc j'ai tendance à lui dire, écoute, maman, ça vraiment, tu peux t'en passer, c'est pas la peine.
Oui, mais ça, c'est pas trop grave. C'est ce qu'on appelle les petits plaisirs de la vie. Et on en a fort besoin, surtout à un certain âge. Donc,
oui.
C'est pas pour rien qu'ils mettent justement des petits gâteaux pleins de crème. Donc, je pense pas que ce soit néfaste à sa santé. Oui, je pensais qu'elle s'alimentait mal toute seule. Mais ils font des repas équilibrés dans la maison de retraite. Donc, ça, vous pouvez lâcher sur les gâteaux.
Oui.
En revanche, de dire, viens, on va faire un tour du parc ou je sais pas, ou viens, je t'emmène, je sais pas si vous la sortez, faire une course.
Oui,
voilà.
Oui. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être plus dans la forme que dans le fond. Et puis, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à vouloir insister parfois pas très adroitement, justement parce que j'ai cette anxiété au fond de moi qui fait que j'aimerais bien que tout de suite... j'aimerais bien tout de suite avoir un résultat et qu'elle aille mieux et que... Enfin, bon...
Ouais, mais ça c'est difficile parce que avoir un résultat tout de suite, d'abord le ton est plus long et plus lent, le rythme est pas le même.
Oui.
Donc vous êtes toutes les deux pas dans le même rythme.
Oui.
Et puis peut-être aussi vous, il y a un travail à mener, alors de préparation, enfin d'une forme de détachement, c'est-à-dire qu'elle remplisse pas toute votre vie ou toutes vos pensées pour que vous puissiez rester dans une stabilité, dans une autonomie de vie.
Oui, ça c'est vrai.
Ça, c'est...
Bon, j'ai un peu tendance à trop m'impliquer dans sa vie.
Ouais. Ouais. Et du coup, à la place de vous impliquer dans la vôtre.
Oui. Oui.
Ouais, c'est une histoire de remettre un peu d'équilibre dans la balance, en fait, votre plateau à vous, pour ne pas vous retrouver en déséquilibre total le jour où elle ne sera plus là. Ouais.
Et puis peut-être, comme on disait tout à l'heure, peut-être lui faire un petit peu plus confiance.
Oui.
Avoir un petit peu plus confiance dans la façon dont elle ressent elle-même ses propres... son corps, ses envies, ses besoins, ce qui lui fait du bien. Peut-être
absolument.
Qu'elle est... j'ai tendance à penser que je fais mieux pour elle-même.
Alors qu'en fait, vous pourriez plutôt l'aider, être très aidante pour elle en la mettant sur le chemin de ses besoins et de ses désirs, qu'elle a peut-être un peu plus de mal à interroger, en l'interrogeant elle-même. Là, du coup, vous êtes aidante et... qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait envie? Qu'est-ce qui te ferait du bien?
Lui poser des questions.
Pour qu'elle puisse décider, elle, un peu de son agenda ou de ce qu'elle souhaite faire. Donc, faire des propositions, mais c'est elle qui va prendre la décision.
C'est ça.
Et vous...
Que de penser à sa place et de lui imposer mes choix.
Oui, comme ça montre, un, que vous avez confiance, mais surtout... J'ai bien aimé quand vous avez dit qu'elle puisse avoir accès à ses besoins, à ce qu'elle ressent, au rythme de son corps, à ce qui semble important pour elle. Mais quelquefois, c'est difficile, surtout avec la maladie. Puis en vieillissant, voilà, elle est peut-être un peu plus dans une forme de brouillard. Donc, au contraire, ça va être stimulant pour elle de tout le temps la solliciter sur. Mais peut-être aussi qu'elle vous décrive, je sais pas, c'est ce qu'elle ressent dans son corps, les symptômes qu'elle peut avoir, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. La faire parler aussi des personnes qu'elle côtoie dans l'EHPAD, les liens qu'elle tisse, qu'elle vous parle de sa vie. Ça va la rendre plus vivante, qu'elle vous raconte un tel, avec qui elle parle. Tout ça, ça crée beaucoup de partage. Ce que dit d'ailleurs une auditrice par SMS en disant « Colette, j'ai mes deux parents en EHPAD et je pense que le plus important est de lui faire plaisir, partager au maximum des moments d'amour et accueillir vos différences et les preuves car vous n'aurez pas à regretter ensuite. Profitez de votre maman. Ouais. »
Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, bêtement, parce qu'on ne...
Oui, pas bêtement, vous en voulez pas, c'est naturel, hein, mais oui, bien sûr.
On ne peut pas éviter l'échéance, malheureusement. J'ai l'impression qu'en lui mettant des règles, je vais retarder l'échéance, et d'une certaine façon, c'est moi que je préserve.
C'est bien dit, c'est magnifiquement analysé.
Et que, malheureusement, peut-être que je me fais des illusions. Et puis même si je recule l'échéance de quelques semaines, de toute façon, l'échéance viendra. Je ne pourrais pas la reculer indéfiniment. Mmh. Et puis peut-être que j'aurai, dans ce cas-là, rendu notre vie à toutes les deux un petit peu moins agréable en mettant des sens interdits un petit peu partout.
Oui, en créant des formes de tension un peu inutiles.
Oui, c'est ça, au lieu de chercher à lui faire plaisir comme vous le proposiez, justement.
Oui, et puis de la solliciter, de la stimuler par rapport à ce qu'elle vit. Et ça, de la même façon, vous rentrez un peu dans votre objectif qui est de retarder l'échéance parce que plus elle sera stimulée, mieux ce sera pour elle. Donc elle a besoin de stimulation le plus possible.
Oui, mais d'une façon plus agréable, en tout cas pour elle.
Oui, constructive en tout cas pour
plus
elle.
Plus constructive, c'est ça.
Ouais. Et moins infantilisante. C'est vrai, hein, vous avez raison, on a la tendance avec des personnes âgées à être dans la sollicitude. Hein, c'est bien naturel, mais quelquefois on ne se rend pas compte que on les infantilise alors que, ils ont en partie leur tête et puis ils ont leur personnalité qui est toujours bien là, surtout.
Oui. Et il faut accepter qu'elle soit différente de la nôtre. Et il n'apporte pas toujours les mêmes réponses que celles que nous, on apporterait. Et puis, c'est pas pour ça que... personne n'a tort. Hein,
non, personne n'a tort. Elle a encore ses envies, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il y a Anne qui dit sur Internet, vous trouverez beaucoup d'informations pour les aidants. Sans doute, vous pouvez regarder. Puis il y a des associations sur Parkinson. Donc effectivement, vous pouvez regarder sur des forums ou des choses sur les aidants. Ça peut vous aider.
D'accord.
À savoir un peu les contours de votre rôle. Mais vous le connaissez, en fait, dans le fond. C'est vraiment une histoire de forme. Hein. De pas chercher à avoir raison aussi pour montrer que vous êtes importante vis-à-vis d'elle. Elle le sait que vous êtes importante, évidemment. Il y a ça dans notre besoin d'être important. Quelquefois, on veut avoir raison. Parce que du coup, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose ou d'être important. Mais notre importance, elle n'est pas dans rarement d'ailleurs, même jamais dans le fait d'avoir raison. Juste dans le fait d'être là, d'être présent.
Oui, je comprends.
Oui.
D'accord.
Il y a Caroline qui dit « Vous ne maîtrisez pas le chemin de votre mère, souriez à la vie et au moment présent et partagez en l'écoutant. Votre mère est consciente, alors échangez le plus possible », dit Caroline.
Oui, elle a raison.
Oui, l'échange, vraiment. C'est là-dedans que vous allez prendre l'une et l'autre le plus de plaisir. Puis ça peut être très stimulant de parler aussi des souvenirs, du passé. Hein, cet âge-là, on aime bien se souvenir d'eux, être là parler, sur votre enfance, sur sa vie, sur son enfance à elle. C'est vraiment le moment d'obtenir le plus d'informations possible.
Oui, d'accord.
Hein, de la famille, de son histoire à elle. Souvent, les personnes âgées, tout d'un coup, se mettent à raconter des épisodes d'enfants qu'ils n'ont pas raconté avant, notamment à leurs enfants. Parce que comme il y a une forme de régression, de souvenirs qui remontent, et quelquefois, c'est très doux, tout d'un coup, d'entendre un aïeul nous parler de souvenirs quand elle était petite ou ce qu'elle a vécu et que peut-être vous ne savez pas encore.
Absolument, oui, oui, tout à fait. Oui, 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 d'accord.
Oui, je comprends. Tisser ce lien-là.
Une façon différente d'aborder la question, finalement.
Oui, mais ça reste le même objectif, vous avez raison.
Oui, je comprends, d'accord.
Donc,
ça
ne le changeait pas, pour ça, il est bon. Sinon, vous vous culpabilisez.
Oui.
Et quand vous vous culpabilisez, vous perdez tout le sel de l'innocence, de la tendresse, de la beauté. Donc, voilà, rentrez pas là-dedans.
Merci beaucoup.
Oui, merci à vous. Merci Colette.
Merci aux auditeurs qui sont tous intervenus et merci à Florian et Thomas pour leur bienveillance.
Oui, merci, c'est gentil. Merci à vous. Je vous embrasse.
Merci à vous, Sophie, vous êtes précieuse.
Ah, c'est gentil.
Je vous embrasse aussi.
Moi aussi, bonne nuit Colette. Bon courage avec votre maman.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir. Oui, cette chanson est magnifique.
Oui, magnifique, vraiment. Et quelle voix.
Mes enfants sont tout ce que j'ai de plus précieux au monde aussi.
Ouais,
voilà.
Il y a Feuille d'Arabe qui dit cette chanson me donne le frisson.
Ah, elle est merveilleuse.
Ouais, c'était très émouvant. Bon.
Bon. Alors, je vous résume la situation. J'ai 60 ans. J'ai vécu 30 ans de mariage fidèle, classique, etc. Mais sans aucun plaisir physique, ni d'un côté ni de l'autre, pratiquement. Et ça fait 2 ans donc, que je suis divorcée. Et bon, je ne pensais pas spécialement à trouver quelqu'un. Et puis, il se trouve qu'en ce moment, depuis une quinzaine de jours, j'ai ce qu'on peut appeler un sex friend qui a 10 ans de moins que moi. Que j'ai rencontré il y a 1 an à peu près. Il m'avait draguée, que j'avais trouvé un peu outrageusement. Je l'avais un peu rembarrée. Il m'avait expliqué qu'il faisait du naturisme, que c'était sa philosophie, son mode de vie, que chez lui, il se promenait tout le temps comme ça et tout. Et puis que tous ses amis étaient comme ça, toutes ses sorties étaient comme ça, voilà, bon. Mais je l'avais rembarré il y a 1 an. Et puis là, je suis retombée sur lui. Et puis, il a été beaucoup plus fin, il a été moins lourd. Et puis, il est arrivé à me convaincre, en tout cas, à venir chez lui 2 fois de suite. Bon, dans le plus simple appareil, comme lui, bien sûr. Et puis, disons que... il essaye un peu de faire mon éducation.
Ouais, ouais.
Parce que c'est vrai que, bon, mais effectivement, hein, je suis passée directement de mes parents qui étaient très stricts à mon mari qui ne l'était pas moins pendant 30 ans. Donc, effectivement, il y a du travail. Bon.
Mmh. Oui, puis souvent, mais, quand on enchaîne comme ça, avec en plus, vous êtes restée 30 ans hein, avec le même conjoint. Donc, en fait, vous avez connu un homme dans votre vie, hein, c'est
absolument.
Ça
absolument, ouais.
Donc, en fait, vous avez sur le plan, j'allais dire, de cette connaissance, en tout cas, un peu 20-25 ans.
Oui, oui, c'est tout à fait.
Même si évidemment avec le même
exactement.
Partenaire. Oui, mais en même temps, on sait aussi que dans la sexualité, avec le même partenaire, on va beaucoup plus loin que si on en enchaîne plein de différents, parce qu'on fait plus d'expériences. Alors, tout dépend du partenaire, mais quelquefois, voilà, on peut avoir une sexualité très mature, très épanouie, parce qu'avec un seul partenaire, on explorait beaucoup de choses, alors que si on a à chaque fois un partenaire nouveau ou différent, ben, en faisant peu de fois avec des personnes différentes, on fait un petit peu les mêmes choses. Vous voyez, on va recommencer à zéro.
Là, voilà. J'ai eu un seul partenaire pendant 30 ans.
Mais peu créatif.
Qui était au moins aussi coincé que moi.
Bon, donc
voilà.
Peu créatif, donc, on va dire. Cette sexualité, c'est quand même le domaine...
Rien de folie.
Voilà, c'est le domaine de la créativité, la sexualité. Oui, absolument.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord.
Donc là, effectivement, je tombe sur quelqu'un qui fait du naturisme depuis toujours. Mais alors qu'il s'éclate complètement physiquement, c'est pas des partouzes, enfin je sais pas si ça s'appelle des partouzes, ce qu'il fait, bref, qui est libertin, qui est tout ce qu'on veut,
ouais.
Et qui a décidé justement qu'il me prenait comme une personne de 20-25 ans, comme vous dites, et qu'il allait me faire découvrir tout plein de choses.
D'accord.
Voilà. Et lui, ça l'intéresse, ça l'intéresse
et vous,
plus.
Et vous?
Et moi, ça m'intéresse beaucoup.
D'accord, bon. Tant mieux.
Alors,
voilà.
La seule chose qui me dérange, Et pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Je lui en ai parlé la dernière fois. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, la seule chose qui me dérange, c'est le MST, quoi, le sida.
Bien sûr, bien sûr.
Puisque tu as plein de partenaires, que tu fais vraiment... bon, alors il me dit, mais oui, mais c'est des partenaires sûrs, qui sont naturistes comme moi, c'est une philosophie, et ceci et cela. Alors bon, moi, alors il me dit, si tu veux, au pire, puisque de toute façon, il refuse bien sûr de mettre un préservatif en tant que naturiste, si tu veux, au pire, toutes les 3 semaines, je peux faire un test de dépistage.
Oui, très bien, ouais.
Vous trouvez ça bien ?
Non, non,
ah bon,
très bien.
Moi, j'étais prête à abandonner.
Non, 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 je dis pardon, pardon, non, pas pour vous, bah non. Non, oui. Non, excusez-moi, vous avez raison de me reprendre. Non, non, je dis très bien de faire des tests, mais enfin, que lui se dépiste, mais ça, c'est pas du tout prudent pour vous, parce que vous me dites qu'il est libertin, donc ça veut dire qu'effectivement, il fréquente certains, peut-être des clubs échangistes. S'il se protège jamais, bon, pour vous,
non,
oui, mais pour vous, c'est pas possible, ça, Claire.
Non,
c'est pas possible.
Voilà, je
non,
crois,
c'est pas possible. C'est pas un, c'est pas respectueux de vous, et de refuser de mettre un préservatif parce que ça entrave lui son plaisir. Ben, c'est au détriment d'un risque pour vous. Donc non.
Oui, oui.
Mais
oui.
Alors comment il fait bon. Alors comment il le comprend ça par rapport à ses autres partenaires? Lui il dit non, mais il y a pas de problème. Tout le monde se protège.
Il y a pas de problème.
C'est-à-dire
que lui, on se connaît, et puis rien qu'en pratiquement rien qu'en voyant les gens, bon, moi ouais, évidemment, bon,
en voyant les gens, il peut savoir.
J'étais une blanche brebis.
Oui.
Moi, il a vu que j'étais une blanche brebis. Non, mais ça fait aucun doute.
Oui.
Mais lui, rien qu'en voyant les gens, avec sa psychologie, soi-disant, il arrive à.
Mais non, absolument pas. Pareil, absolument pas. La preuve, Claire, c'est que quand on attrape justement une MST, on est en général la première personne un peu surprise ou surprise, et on est souvent bien, bien embêté, bien attrapé. Donc non, on ne sait pas la tête de la personne si c'est fiable ou pas, bien sûr que non. Et il y a trop d'hommes aujourd'hui qui disent, d'ailleurs aussi dans l'époque, qui disent à des jeunes filles ou des hommes d'une génération d'ailleurs, hein, c'est intéressant, on parlait de naturiste, vous avez raison que ça va avec sa philosophie, ou des jeunes qui disent non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, ou j'ai fait un test, c'est pour ça que je disais ah, très bien, c'est que je pensais effectivement à des jeunes qui maintenant font des tests tous les 3 mois, mais en même temps ça ne protège pas. Pas les autres, quoi. Mais
non,
souvent, les jeunes gens font ça. Hein, les jeunes gens d'aujourd'hui font beaucoup de tests.
Je savais que vous alliez me dire ça, mais j'avais quand même besoin de l'entendre.
Non, mais évidemment.
Et en fait, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un... Bon, je suis allée avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un de très tendre, qui prend soin de moi. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu jusque-là. Et c'est vraiment très apaisant et très agréable. Mais je vois bien que je ne peux pas aller plus loin. Voilà.
Bah, c'est que vous découvrez, vous, j'imagine, un rapport au corps très nouveau.
Exactement.
Et du coup, très sensuel, et qui vous ouvre des ressentis, des perspectives.
Oui.
Et effectivement, c'est un peu comme une expansion, enfin, c'est le mot qui me vient, une expansion de son être. Parce que bien sûr que notre corps est extrêmement important, mais est-ce qu'il n'y a pas façon avec lui d'en parler? Parce que lui, continue tout en étant...
Oui,
parce que lui, continue tout en étant avec vous, à aller dans ses clubs. Il n'a pas d'exclusivité avec vous.
Je sais que, bon, là, c'est le printemps. Après, ça va être l'été. Bon, il m'a expliqué un petit peu comment il fonctionnait. Chez les amis chez qui il va, ils ont des piscines, etc. Et puis, bon, et puis c'est quelqu'un qui se laisse, enfin, qui s'éclate comme ça.
Oui, partenaire multiple, quoi, ce qu'on appelle les partenaires multiples.
Oui. Jusqu'ici, oui, ça a toujours été
ça. Quand ce sont des personnes, quand ce sont toujours les mêmes, qui se connaissent bien et qui ont fait des tests et que ça reste entre eux, bah là, le risque est évidemment limité. Si tout le monde est responsable et que ce sont toujours les mêmes partenaires et que les tests ont été pratiqués, à ce moment-là, ben, on a arrêté les risques, mais il faut être sûr que ça reste sur des personnes bien ciblées qui sont déjà protégées. Et à ce moment-là, bien sûr qu'on peut enlever certaines protections.
Oui, mais je crois que
c'est pas
je
le cas.
Peux pas avoir confiance.
Non.
Parce que c'est quelqu'un qui a des occasions facilement de rencontrer des femmes. Et puis, qui doit leur faire le même baratin qu'il m'a fait il y a un an.
Ouais.
Et puis... Voilà.
Mais vous, quel est votre besoin, Claire? Est-ce que c'est besoin de construire avec quelqu'un ou est-ce que vous disiez
un sex friend?
Donc, en fait, ça vous allait bien, vous aimiez bien.
Ça m'allait bien.
Oui, je comprends.
Ça m'allait bien parce que je ne m'attache pas sentimentalement. Bon, il est très tendre, très gentil. Il m'envoie des petits textos adorables et tout, de tendresse. Mais bon, je sais que lui aussi, il ne s'attache pas non plus. Hein. Mais en fait, il est très gentil, très tendre quand même. Quoi. Bon, c'est agréable, disons.
Ouais. Voilà. Ou alors, vous restez dans un lien, mais vous limitez certaines pratiques pour éviter.
Oui, c'est ce qu'on a fait jusque-là, les deux fois où je suis allée chez lui.
C'est ça.
Mais bon, là, je sens qu'il veut passer un peu à la vitesse supérieure. Et là, c'est là que ça me dérange. Voilà.
Mmh. Oui, je comprends. Je comprends, mais c'est à vous de dire
de
ce qui vous convient.
Les...
Absolument. Ouais.
D'accord.
Oui, et presque d'exiger, enfin, de dire, voilà, et moi,
d'exiger.
C'est...
Ah oui, hein,
c'est
exiger,
ce qu'on dit aux jeunes filles aujourd'hui, hein, protégez, voilà, sortez couverts, protégez-vous, c'est partout.
De... Non, non.
Parce qu'il n'y a pas, enfin, vous citez le sida, mais évidemment, il n'y a pas que le sida, c'est que ce soit des chlamydia ou autre, dans les MST, bon, c'est embêtant, s'en débarrasser, c'est pas toujours évident, enfin, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas que le HIV, hein, dans les MST, maintenant.
Oui, je suis pas au courant de tout ça.
Il y en a d'autres, oui.
Et le terme sida, mais sinon, oui.
Oui, non, mais parce que si on réduit le sida à la MST, dans les MST, vous avez d'autres formes. Donc, oui. Bon, c'est quand même des infections, quand même, voilà, après c'est des traitements.
Quand on se tasserait bien.
Oui, ça se traite, hein, mais bon, voilà.
Oui, mais enfin, bon. Non, ouais. Et puis là, bon, mais il est ouvert à n'importe quelle rencontre du jour au lendemain. C'est pas pour autant qu'il me laissera tomber, mais il peut avoir plusieurs.
Mais est-ce que finalement, c'est pas, comme je dis parfois sur cette antenne, est-ce que cet homme, c'est pas finalement c'est ce qu'on appelle un passeur pour vous? Il vous a réveillé et que maintenant,
que
vous connaissez mieux.
C'est mon initiateur.
Voilà.
C'est mon initiateur.
C'est ça. Et maintenant, vous connaissez mieux en tant que femme et vous allez savoir aller vers un compagnon qui aime aussi donner du plaisir à une femme et partage ça avec vous, cette sensualité. Absolument. Absolument.
Voilà.
Ouais.
Oui,
il y a Séverine qui dit qu'il faut faire attention à certaines MST qui passent la barrière du préservatif, notamment les HPV. Bon, prudence.
Oui.
On reste surpris quand on lit les résultats d'examen, dit Séverine. Bon, là, c'est pas très rassurant parce que si en plus, elle doit passer la barrière. Bon, mais là, en tout état de cause, pour vous, c'est surtout que vous n'allez pas être tranquille. Pendant l'acte.
Je vais pas être tranquille.
Si c'est pour être sous stress et paniquer, pas se sentir respecté, se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Si je risque, alors quoi, aller dans un laboratoire? Enfin, c'est pas une vie, ça.
Non, je vais pas être tranquille. Et justement, c'est quelque chose qui a besoin qu'on soit détendu et tranquille.
Ouais.
Voilà.
Bon, vous pouvez le remercier, d'avoir été sur votre chemin pour ça.
Oui, mais on a resté amis, hein. Oui. Oui. Voilà.
Oui, peut-être que lui aura ou pourra vous présenter un homme qui lui sera peut-être moins dans ce cercle-là.
Non. Il fréquente que ce cercle-là, des éternités.
Ouais. Et lui n'a jamais rien attrapé.
Eh bien, écoutez, non. Hein,
c'est ce qu'il dit en tout cas. Ouais.
Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais.
Bon, le souci aussi, c'est qu'on n'est pas égaux hommes et femmes et que quelquefois l'homme ne sent rien quand la femme, elle, développe certains symptômes.
D'accord.
C'est la femme qui informe souvent son partenaire ou son conjoint qu'il se passe quelque chose. Donc là aussi, on n'est pas égaux. Quelquefois, l'homme, lui, ne sent rien. Mais il peut contaminer. Alors, je ne parle pas du sida. Hein, je parle, par exemple, des chlamydia ou d'autres, d'autres types d'infections.
Voilà, non, parce que
donc là aussi, on est plus vulnérable.
Je risquais quelque chose, donc c'est pour ça que... Bon, mais écoutez, c'est bien que j'ai pu vous en parler ce soir.
Oui,
vous m'avez confortée
c'est bien.
Dans ce que je pensais, puis vous m'avez en plus éclairée par sur le marché.
Bon, tant mieux. Il y a Séverine qui dit que ça reste génial de trouver une personne qui nous révèle à tout âge. Oui, je suis bien d'accord.
Oui, bien sûr.
Ouais. Mais ça y est.
Pas à n'importe quel prix.
Non, mais ça y est, en fait, l'initiation est passée. Oui, vous allez passer maintenant au stade.
Voilà.
Vous allez passer à un autre stade et vous allez être une merveilleuse amante.
Une femme plus épanouie.
Et puis qui comblera un homme et réciproquement et un homme qui vous comble. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui, c'est ce que je vous souhaite, Claire. Ouais.
Voilà.
Ouais. Et puis merci de votre témoignage parce que vous avez dit votre âge d'entrée de jeu et je trouve formidable qu'une femme de votre âge, une femme de 60 ans, puisse venir dire à toutes les femmes qui vous écoutent que oui, on peut avoir une sexualité épanouie à n'importe quel âge, qu'on peut aimer ça.
C'est vrai.
C'est important de le dire. C'est important que ça s'entende. Oui. Parce que on se dit après la ménopause, c'est fini. Non, c'est pas fini après la ménopause. Ah oui, absolument pas. Donc merci, c'est très tabou, vous savez, Claire. Souvent, on a l'impression que la femme, après 50 ans, après la ménopause.
Vous mon appel.
Avec grand plaisir.
J'ai pris des pincettes, je ne vous ai parlé pas de façon crue ni quoi que ce soit.
Ça a été parfait.
De façon la plus délicate possible.
Oui, j'entends, c'est adorable.
Voilà.
Oui. Non, mais c'est vraiment, je suis très sincère avec vous. On a tendance, la sexualité des femmes après 50 ans, c'est presque plus un sujet. Alors, merci de l'aborder. Vous avez fait dans cette émission, on avait fait une spéciale sur la sexualité des seniors au mois de novembre, et notamment en EHPAD, et où justement, je trouvais important qu'on en parle et que ça ne reste pas un tabou dans l'avancée en âge. Donc, merci Claire d'être venue en parler à ce micro.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et puis merci aussi à Thomas qui m'a très bien reçu.
Oui, merci, c'est gentil.
Et puis je vous écoute très 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 régulièrement.
Merci beaucoup Claire.
Merci
beaucoup, je vous souhaite un bel amour, de beaux amours et de belles relations.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Je vous embrasse. Au revoir Claire.
Au revoir.
Bonsoir Karine.
Bonsoir Sophie. Merci. Ravie, enchantée de pouvoir communiquer.
Merci.
Enfin, d'échanger avec vous. Ça me fait très plaisir.
Merci.
Vraiment.
Merci, c'est touchant. Ça me fait plaisir aussi de vous entendre.
C'est une grande
dire
surprise.
Comme ça. Bon.
J'ai eu la chance de pouvoir. Je vous ai appelé tout à l'heure et Florian m'a ensuite très rapidement rappelé. Et j'ai été très surprise, agréablement surprise, et voilà. Donc, merci infiniment.
Tant mieux.
Merci.
Et qu'est-ce qui vous amène ce soir, Karine ?
Eh bien voilà, j'ai expliqué à Florian tout à l'heure que j'ai vécu quelque chose de très douloureux, puisque j'étais mariée à un Allemand. J'ai vécu à peine 5 années avec cet homme, et j'ai donné naissance à ma fille aînée, en Allemagne, et puis suite à la vie, on va dire, un peu malheureuse parfois, j'ai préféré fuir cet homme, donc j'ai quitté l'Allemagne, sachant bien évidemment que je n'allais pas laisser mon enfant là-bas, donc je suis revenue en France avec ma fille aînée, alors âgée de 11 mois, et j'étais enceinte de sa petite sœur, donc enceinte de 2 mois et demi. Donc, je suis arrivée en France en décembre 1997. Et bien évidemment, j'ai été condamnée quelques mois après à l'enlèvement de ma fille par la Convention de l'AE. Donc, je me suis, je me suis opposée au fait que ma fille aînée reparte chez son papa. D'une part parce qu'elle était trop petite, et deuxièmement parce que j'attendais la naissance de sa petite sœur. Voilà. Et puis, les années ont passé, et à l'âge de 3 et 4 ans, il a fallu qu'elle reparte vivre chez leur père. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ont 22 et bientôt 21 ans. Donc, ça fait, bientôt 18 ans qu'elles vivent là. En Allemagne, ce qui fait que j'ai très peu vu mes enfants. Je dirais qu'aujourd'hui, je les connais à peine.
Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'elles sont reparties si jeunes ? Vous aviez-vous un souci pour les élever ?
Non, absolument pas, parce que cet homme aurait pu payer une gracieuse pension alimentaire. En fait, il s'avère que la seconde de mes filles a été contestée dès la conception. Mon ex-mari a fait en sorte de contester la paternité pendant 2 ans et demi. Et dès que c'était, enfin, je savais que cet enfant était de lui. Et dès qu'il a su que cet enfant était de lui après 2 tests de paternité, il a exigé également la garde. Et là, je me suis mise en porte-à-faux puisque je ne pouvais plus. Je n'acceptais plus du tout, après tout le mal qu'il m'avait fait, d'une part l'enlèvement de ma fille aînée, après me dire que j'allais donner naissance à, excusez-moi du terme, un bâtard. J'avais tellement mal, c'était tellement douloureux pour moi, que je ne pouvais plus accepter de la part de la loi française, que mes filles aillent en Allemagne. En droit de visite. Donc je me suis mise, si vous voulez, contre la justice. Et au bout de d'un an, il a fallu qu'elle parte définitivement chez leur papa.
Parce que vous n'aviez pas respecté les droits de visite, c'est ça ?
Non, ça vous a fait plus envie.
Oui, je comprends. Oui, voilà. D'accord, mais c'était pour comprendre comment les choses s'étaient passées. Ouais. Ouais. Maintenant elles sont majeures en fait. Vous avez eu des nouvelles. Enfin, comment passées les années?
Elles venaient, on va dire entre 3 et 5 semaines par an.
D'accord. Donc tous les ans vous les avez vues.
Voilà.
D'accord.
Et puis à partir de 2009, de moins en moins. C'était 3 semaines parfois moins. Et à partir de 2013, c'était 2012 même. Non, 2011. Une semaine par an, 2012, une semaine dans l'année. Et ensuite, par exemple, en 2004, de 2013 à 2017, je n'ai pas vu ma fille aînée pendant ces 4 années.
Et aujourd'hui, quelle relation vous avez avec elle?
Alors, parfois, je dirais que c'est en dents de scie. Pourquoi? Puisque j'ai oublié de vous dire que je suis devenue, suite à ce choc émotionnel, brutal. Je suis bipolaire.
Oui.
Voilà. Automatiquement, comment ne pas le devenir?
Alors, je vous arrête. Le choc a pu déclencher, mais c'est pas... On ne devient pas bipolaire suite à un choc, vous voyez?
C'est vrai?
Non, je ne sais pas qui vous...
Ce sont les psychiatres en psychiatrie, en hôpital psychiatrique, qui me l'ont dit.
Oui, mais le trouble bipolaire, en fait, en général, il apparaît entre 20 et 30 ans. Vous aviez 33 ans, c'est ça, quand c'est apparu?
Oui, je pense. Mais j'ai posé la question à différents amis.
D'accord.
Que je côtoie toujours. Lorsque j'avais 20, après le décès de mon père, à l'âge de 18 ans jusqu'à mes 30 ans, effectivement, je sentais déjà que j'avais des choses qui n'allaient pas.
Oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que, disons que là où je vous suis, c'est que la situation a pas pu l'éviter et a dû, faire presque flamber les symptômes, tellement
bien
c'était
sûr.
Dur à vivre. Voilà.
Oui. D'accord.
Ouais.
Donc voilà, aujourd'hui je suis, je pense être bipolaire depuis mes 20 ans à peu près.
Souvent c'est à ces âges-là que se déclenchent les premiers éléments, mais quelquefois, vous avez tout à fait raison, les crises peuvent apparaître à 30, au début de la trentaine ou fin de la vingtaine. Et quelquefois, c'est d'ailleurs diagnostiqué très tard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez difficile à diagnostiquer. Quelquefois, il y a des erreurs de diagnostic. Souvent, quand c'est des phases, les phases dépressives sont très fortes, on va traiter un patient pour dépression sévère, alors que c'est la bipolarité. Donc, on peut errer quelque temps comme ça dans des services de psychiatrie sans être traité pour la bipolarité, c'est-à-dire avec le lithium, et être traité par des antidépresseurs. Et là, ça peut être assez embêtant. Ouais.
Dieu merci, ça n'est pas du lithium.
Oui.
Hein. C'est beaucoup moins fort.
D'accord.
Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir un traitement beaucoup moins violent.
D'accord.
Depuis ces 18 dernières années. Alors, j'ai dû être franche il y a quelques années et expliquer à mes enfants, parce qu'elles remarquaient mes faiblesses, par exemple, parfois mes tremblements, mes fatigues. Et donc, je leur ai expliqué le plus simplement possible ma maladie. Vous voyez, pour être très transparente avec elles. Et puis, parfois, bien évidemment, les relations sont également en dentier avec mes enfants.
Bien sûr. Parce que c'est pas le traitement que vous avez n'a pas stabilisé, parce qu'on peut bien vivre avec la vie. Mais vous êtes suivi aussi sur le plan thérapeutique, c'est-à-dire travail en thérapie, ou juste sur le plan médicament, juste médical.
Médicament, c'est bien là le problème. Ouais. Depuis 18 ans, et je m'aperçois que, bien sûr.
Oui, parce que franchement, s'il y a bien un trouble en psychiatrie sur lequel aujourd'hui on peut bien avancer, on peut bien traiter, c'est bien le trouble bipolaire, vraiment. Hein. Et vous avez j'insiste pour dire à cette antenne qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués, qui travaillent, ont des emplois, ont des vies, j'aime pas le mot entre guillemets normales. Pour le reste du monde, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant, ils ont pu avoir quelques hospitalisations ou quelques épisodes, mais ils prennent ça très sérieusement. Oui. Si après on a une vie saine, alimentation, sport, soutien ou suivi thérapeutique, médicaments qui stabilisent, vous pouvez tout à fait avoir une vie qui va bien. Enfin, vous voyez, c'est plutôt le fait de bien se connaître.
C'est de bien connaître.
C'est tout l'enjeu. Du travail en thérapie, hein. c'est la connaissance de soi.
Oui, c'est...
Et quand on est bipolaire, c'est d'autant plus important parce que quand on se connaît bien, on sait repérer ce qui nous met sous stress, ce qui va déclencher des phases maniaques ou dépressives. Attention de voir les signaux d'alarme qui arrivent. On sait qu'on vient de vivre.
On sait qu'on vient de vivre tel
événement ou qu'on côtoie tel type de personne. Ça va pas. On apprend à se protéger. Oui. Voilà. Enfin, après il y a. On apprend. Exactement. On apprend à faire avec. Ouais.
Oui. Mais c'est vrai que j'ai dû effectivement après le départ de mes enfants, j'ai dû être hospitalisée en psychiatrie. Et Dieu merci, Dieu merci, parce que ça a été très dur. Mais j'y suis restée 3 mois, mais tant mieux. Ça a été vraiment... Ça a été vital. Hein. Et je dirais que ça a été plus un traitement, une épaule médicamenteuse qu'une épaule psychologique.
À l'époque, c'est un peu normal parce que ça devait rejoindre ce qu'on dit en bipolarité, ce qu'on appelle la théorie de l'embrasement, c'est que ça s'est embrasé sous le fait de l'événement traumatique que vous avez vécu, comme un foyer qui prend feu. Quoi.
Ah là là,
c'est ça qui s'est passé. Je comprends que vous fassiez le lien. Le foyer est là, puis tout d'un coup, c'est l'allumette qui a fait tout flamber. Après, il a fallu évidemment d'abord traiter sur un plan médical, mais c'est après, je ne sais pas qui vous avez croisé sur votre route et si... il n'est jamais trop tard, Karine.
C'est ce à quoi je pense aujourd'hui. Puisque quand vous parliez par exemple tout à l'heure de l'emploi, je ne peux plus travailler puisque je suis épuisée. Parce que je suis esthéticienne de métier, donc c'était un travail déjà épuisant physiquement.
Donc
à la sothérapie, puisque j'habite non loin de la mer, je suis épuisée. En plus, depuis 2015, on m'a découvert une leucémie lymphoïde chronique. Mais c'est normal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, on m'a empoisonné la vie, que ce soit les membres de ma famille, le père de mes enfants et tant d'autres. Et le fait de m'empoisonner la vie, mon sang s'est empoisonné.
En tout cas, vous avez ressenti cette vie-là ou ces êtres-là comme des poisons. Mais c'est important à vous, du coup, de chercher les antidotes, le centre anti-poison et tout ce qui va permettre à votre corps et votre psychisme de se régénérer. Parce qu'on n'est évidemment pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable d'en faire quelque chose. Et de ce poison, à vous, maintenant, de pas le garder, qu'il agisse pas comme ça. C'est vraiment important.
Bien sûr. Parce qu'en fait, là, c'est la raison pour laquelle je vais vous appeler aussi. Je suis vidée, quoi. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure, j'entendais une femme qui expliquait qu'elle avait, que son corps lui faisait mal, qu'elle était... Voilà, qu'elle avait très très mal aux épaules. Je me sens vidée. C'était hier.
Dans le cas d'un burn-out,
Voilà. Et c'est vraiment...
Mais le corps, si vous voulez, lui, il met en œuvre aussi ce que le psychisme a du mal, comme une machine qui referait des mises à jour et qui patine. Et du coup, le corps, lui, ben, dans ses symptômes, il exprime ce mal-être-là. Donc vraiment, je vous encourage, Karine, à entamer un véritable travail de fond. Il n'y a aucune raison que ça ne nous fasse pas du bien. Deux, évidemment que vous n'y arriviez pas, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Bien sûr.
À vous, après, de trouver effectivement la bonne alliance thérapeutique avec un ou une thérapeute. Ça va être essentiel. Mm-hmm. Donc vous mettez en quête de cet individu avec lequel vous allez vous sentir bien, en confiance. Et puis vous y allez, parce qu'il y va vraiment. Voilà, vous êtes encore toute jeune. Il y va de votre équilibre, un peu comme disait Alia tout à l'heure, de retrouver des étoiles dans le ciel et, je ne sais pas, du soleil dans le cœur, en tout cas pour vous.
Oui, mais enfin là, pour l'instant, c'est plus, moralement.
Mais j'entends bien, c'est bien ça.
Bien sûr.
Et quand le moral va mal, le corps, il souffre, lui aussi. Mais bien sûr. Non, vraiment, là, c'est important, Karine. Gardez, moi, j'aime bien votre image de poison. Dites-vous, je vais saisir un psy comme j'irais dans un centre anti-poison. Vraiment. C'est ça, votre travail, c'est d'aller vous débarrasser de tous ces poisons, de tout ce qui vous empoisonne la vie.
Voilà. Ça n'est pas faux.
Voilà.
En tout cas, c'est une belle, belle parole.
Je vous souhaite de tout mon cœur.
Je vous remercie infiniment. Ouais. C'était une belle fin de soirée. Et je vous souhaite en tout cas une belle nuit.
Merci vous aussi. Et prenez soin de vous. Hein, d'accord ?
Merci infiniment. C'est
important, vous
Sophie.
Êtes importante. Chacun est important. Merci Karine.
Merci Sophie.
Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir.
Bonne nuit à vous également. Au revoir.
Et un grand merci à vous tous et toutes qui êtes à l'écoute fidèlement. Et puis également à nos auditrices ce soir qui sont venues témoigner, nombreuses. Merci encore à elles. Merci à Alia, à Colette, à Claire et à Karine. Et puis je vous propose qu'on se dise bonsoir avec Aristote qui nous dit toujours de très belles choses, et notamment celle-ci. Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux. Je vous souhaite une belle nuit, il est 1h et on se retrouve demain soir à 22h30, c'est promis. À demain.